Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, parlons vrai sur Sud Radio avec aujourd'hui Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Kevin Bossuet, bonjour, vous êtes professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. On a Romain Colas qui est avec nous à Boussy-Saint-Antoine. Vous êtes en Zoom pour ceux qui nous regardent, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Je viens de le dire, et Éric Vérague, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, ou qui est peut-être par téléphone, je ne sais pas, non, pas encore. Voilà, embouteillage parisien. Avez-vous été convaincu par Agnès Buzyn ? La France a bien anticipé la crise, c'est ce qu'elle a dit hier devant la commission d'enquête. On va vous repasser un petit extrait. On va revenir sur le bilan pour les 80 km/h. Et puis, hier, l'avocat Jean Veil, à propos de la condamnation de François Fillon, disait qu'il fallait réserver la prison aux gens dangereux. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. On en parle avec vous également, YouTube, Facebook, Twitter, si vous voulez réagir. Commençons avec un petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Patrick, on va commencer avec vous, Patrick Vignal.
Écoutez, moi j'ai un coup de cœur, hein, la Convention citoyenne a proposé au président de la République un moratoire sur les centres commerciaux. Vous savez que tous les 5 ans, c'est le cas d'un département qui croule sous l'étalement urbain. Et ce qu'on n'est pas arrivé en tant que parlementaire à faire, les citoyens l'ont fait auprès du président. Donc je suis ravi qu'on ait cet arrêt des centres commerciaux et qu'on ait un vrai débat pour réenchanter la ville habitée.
Oui, donc ça c'est un combat que vous menez.
Ça fait très longtemps que je le mène, ouais. Je ne suis pas arrivé à le mener en tant que parlementaire et donc les citoyens m'ont appuyé dans ce désir, donc j'en suis ravi.
Bon. Kevin Bossuet.
Oui, donc un coup de gueule, notamment contre le traitement de la question du racisme, notamment dans l'espace médiatico-politique. Hein, depuis plusieurs semaines, s'est imposé dans le débat médiatico-politique, notamment la question du racisme. La question du racisme à l'encontre des personnes d'origine noire et des personnes d'origine maghrébine, jusqu'à nous faire tomber dans une forme d'hystérie collective qui a même poussé une entreprise comme L'Oréal à vouloir bannir, notamment de ses produits, les mots blanc, blanchissant ou encore clair. Autant dire que là, on n'est plus dans l'hystérie collective. On est quand même tombé dans la psychiatrie lourde. Donc évidemment qu'il y a une forme, si vous voulez, il y a du racisme à l'encontre des personnes d'origine noire, enfin des personnes d'origine arabe, ça existe, il ne faut pas le nier. Cependant, moi je m'étonne quand même que dans l'espace médiatico-politique, on ne parle jamais d'autres formes de racisme, notamment le racisme à l'encontre des personnes asiatiques ou encore à l'encontre des personnes blanches. Parce que, ouais. Par exemple, le racisme anti-blanc est une réalité. On l'a vu il y a quelques mois à l'université Paris 8 à Saint-Denis, qui était jonché notamment de tags racistes à l'encontre des personnes blanches. Je cite « fuck white people » ou « français égale PD ». On le voit également dans les établissements scolaires des banlieues, hein, notamment des élèves qui sont blancs, qui sont souvent minoritaires dans les classes, qui sont traités de face de craie, qui sont traités de sale babtou, qui sont traités de blanc d'œuf, et même qu'il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans les journaux pour voir qu'il y a des faits divers qui ouais. mettent en avant notamment ce racisme anti-blanc. Je pense notamment en 2014 à cette jeune fille de 17 ans qui a été violée par un Turc à la sortie de la gare d'Évry-Courcouronnes. Et si ce Turc a choisi notamment cette personne, c'est parce que c'était une Française, parce qu'il a dit que les Françaises étaient tous des putes. Et lors de l'audition, il a notamment dit que lors de sa sortie, il allait niquer la France. Donc voilà, le racisme anti-blanc existe, on en parle de plus en plus. Il y a Yari Kildiz, qui est un diplômé de Sciences Po, qui a sorti un livre sur le sujet en 2010, qui a bien montré l'importance de ce racisme anti-blanc. Il y a même Linette, qui en 2012 a montré notamment qu'il y a 18% de la population majoritaire, c'est-à-dire de la population blanche, qui avait été victime notamment de racisme anti-blanc, et de même les tribunaux condamnent de plus en plus le racisme anti-blanc, comme en 2016 où il y a une insulte raciste à l'encontre des blancs qui avait été condamnée à de la prison ferme. Donc ce racisme-là, on n'en parle jamais, et on a l'impression dans les médias finalement qu'il y a un racisme qui est plus important qu'un autre, et le racisme anti-blanc n'est pas très important. Et je trouve que ça, c'est donner raison notamment à tous ces indigénistes qui se cachent derrière l'antiracisme pour mieux promouvoir la distinction des races et qui attaquent l'homme blanc pour mieux s'en prendre à notre civilisation, notre identité et notre culture. Vous savez, moi j'aime beaucoup cette phrase de Jean Jaurès, c'est qu'au fond il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Donc oui, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Il n'y a pas une forme de racisme plus importante qu'une autre. Il faut condamner toutes les formes du racisme. Et je pense que s'il y avait un traitement égalitaire dans les médias, on ferait gagner une seule chose, la République.
Oui. Alors, c'est vrai aussi que un certain nombre de personnes sont discriminées.
Bien sûr.
Du fait, c'est plus difficile pour les personnes de couleur de trouver du travail.
Sûr.
Et je rappelle à chaque fois que les personnes les plus discriminées sont les personnes handicapées.
Évidemment.
Quand, avec toutes les études qui ont été menées, une réflexion
oui,
sur ce que vient de dire...
Le vrai débat, je partage votre analyse, mais le vrai débat, c'est remettre de l'éducation et de la culture au sein des citoyens, et je pense que la société est fracturée, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, on a vu que le politique est discrédité complètement. Si on ne remet pas de l'éducation et de la culture, je crois que le pays va
mais
à volo.
Vous ne croyez pas que c'est un peu...
Un peu tard.
Utopique, oui, oui, un peu tard.
Non, c'est pas utopique. Vous savez, moi, depuis...
Je n'ai pas la solution. Hein, mais
vous savez, depuis 30 ans, il y a eu beaucoup de lâcheté de la part du personnel politique. Vous le voyez bien. Aujourd'hui, à quoi sert le politique aujourd'hui? Le vrai débat, il est là. Comment on forme les citoyennes de demain? Et ça démarre déjà à l'école primaire. Moi, j'avais fait un travail important sur le Parlement des députés juniors. 1000 enfants, CM1, CM2, sur comment on fabrique la loi et comment on la respecte. Donc, si on ne travaille pas sur l'éducation et la culture, on ira dans le mur.
Alors, peut-être une réaction, Romain ou Romain Colas ?
Oui, comment dirais-je ? Ma réaction, c'est d'abord que toutes les discriminations fondées sur l'appartenance ethnique ou religieuse sont évidemment condamnables. Je pense cependant, pour réagir aux propos de Kevin, qu'il n'y a pas de commune mesure. Il faut dénoncer toutes les formes de discrimination, mais il n'y a pas de commune mesure entre la façon dont peuvent s'exprimer parfois les discriminations de la part d'abrutis totaux à l'égard de ce qu'on appelle les Blancs le caractère plus constant. C'est d'ailleurs lié en partie à notre histoire des discriminations à l'égard des Noirs, à l'égard des Arabes. Voilà. Mais il faut combattre. Et de ce point de vue-là, on peut tous être d'accord autour de la table. Enfin, je ne suis pas autour de la table, mais d'accord avec entre nous sur le fait qu'il y a effectivement le creuset républicain et que ce creuset républicain implique qu'aucune discrimination ne soit fondée sur l'appartenance ethnique, sur l'appartenance, sur l'appartenance religieuse. Ça me dit surtout le commentaire de Kevin que... Le combat pour l'intelligence individuelle et collective est un combat permanent.
Ouais. Ouais.
Alors moi, j'ai entendu ce que monsieur le député a dit. Évidemment, il faut de l'éducation. Je suis enseignant, donc je ne vais pas aller à l'encontre de ce que vous avez dit. Mais je pense qu'il faut davantage, quand même, plus de fermeté. Quand vous avez, notamment dans notre société, des gens qui descendent dans la rue pour dire qu'il existe un racisme d'État, pour dire que la police est majoritairement raciste et que vous avez un ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui leur donne raison, je trouve que ça ne va pas du tout dans ce pays. Donc il faut de la fermeté, parce que ceux qui souffrent le plus de ce laxisme étatique, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce sont tous ces gens d'origine populaire, qui sont notamment dans les banlieues, qui souffrent de ces préjugés qui sont dus notamment à ce laxisme étatique excessivement grave. Donc de la fermeté et changer un peu de ministre de l'Intérieur pour qu'il dise un peu des choses intelligentes, parce que ce qui s'est passé quand même il y a quelques semaines, c'est juste insupportable et ça a blessé même les gens, parce que moi j'enseigne en Seine-Saint-Denis, ça a même blessé les gens de Seine-Saint-Denis qui ne veulent pas être assimilés à ces gens, à ces hystériques.
Alors vous qui êtes enseignant, vous le savez, je pense qu'il y a aussi un problème d'aménagement de territoire, on est d'accord. Il y a la ville habitée, le ghetto, la ville des riches, la ville des pauvres, et je pense qu'en fait c'est un problème déjà d'aménagement de territoire. Et le second débat, c'est aussi effectivement la parole publique. Et c'est vrai que franchement, la classe politique, on le voit avec Mélenchon dernièrement, en fait, on n'est que sur de l'invective, en fait. On est une classe politique qui pense qu'à régler des comptes et pas s'occuper des citoyens. Vous avez vu ce week-end que 60% des gens ne vont pas voter. Oui. Donc le vrai débat, c'est remettre de la République, et je peux être d'accord avec vous sur de la fermeté, mais aussi avoir de l'égalité des chances. Et vous êtes d'accord avec moi, suivant où on habite, suivant la couleur, suivant le sexe, on n'a pas près de discrimination aussi.
Oui.
C'est ça qui, aujourd'hui, nous pose un vrai problème.
Oui. Alors
Je veux redire d'un mot là-dessus pour réagir à la fois à ce qu'ont dit Kevin Bossuet et Patrick Vignal. Il ne faut pas tomber non plus dans le piège précisément tendu par les indigénistes. Les manifestations auxquelles nous avons assisté au cours des dernières semaines étaient, pour l'immense majorité de leurs participants, des manifestations contre le racisme, pas des manifestations contre la police, pas des manifestations contre un supposé d'ailleurs, et évidemment c'est une proposition que je rejette, un supposé racisme d'État. Il y avait dans les manifs, notamment des jeunes blancs, des jeunes noirs, des jeunes d'origine maghrébine, qui manifestaient simplement contre le fait qu'ils vivaient. Alors, certains le vivaient en voyant que leur copain était discriminé, d'autres le vivaient eux-mêmes, un certain nombre de discriminations. Voilà. Et il n'y avait pas 20 000 personnes, parce que je crois que c'est le chiffre qui avait été annoncé, il n'y avait pas 20 000 personnes à la République lors de la plus grande des manifestations pour dénoncer un État supposé raciste ou pour dénoncer une police globalement qui serait raciste. Il y avait des gens, et j'en connais, il y avait des gens qui étaient présents, et c'est l'immense majorité de celles et ceux qui étaient là, simplement pour dénoncer le racisme. Donc ne survalorisons pas les séparatistes et les indigénistes. Ils n'étaient pas 20 000 à la République l'autre jour. Ils ont peut-être fait plus de bruit que les autres, mais ce n'est pas à nous de survaloriser leurs paroles qui restent extrêmement minoritaires.
Oui, mais sauf qu'elle a été survalorisée, cette parole. On est obligé, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.
Je me régale d'entendre tous les jours des débats où tout le monde peut s'exprimer.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
On va revenir sur l'interrogatoire hier d'Agnès Buzyn. La France a-t-elle bien anticipé la crise? On va parler de la prison également. Est-ce qu'elle doit être réservée aux gens dangereux? Les 80 km. Éric Vérac nous a rejoint en studio et Romain Colas est avec nous en Zoom. Éric Vérac, votre coup de gueule, coup de cœur?
C'est un coup de cœur, mais toujours. J'en profite pour présenter mes excuses aux auditeurs pour mon retard, mais qui rejoint mon coup de cœur, puisque mon coup de cœur va à la RATP, c'est-à-dire la régie des transports parisiens, qui vient d'achever avec 4 ans de retard l'équipement du réseau.
J'adore les
4G.
Coups de cœur.
Quel beaucoup de cœur.
Mais j'ai fait l'expérience du fait que prendre la voiture à Paris, ça reste toujours pire que prendre le métro. Et que je suis en retard parce que j'étais bloqué sur le périphérique.
Ouais.
Et donc, il y a quand même un sujet à Paris. Beaucoup de gens en province imaginent que Paris est un Eldorado qui s'est enrichi, engraissé sur la vie des autres. En réalité, les Parisiens souffrent d'un sous-équipement public. Et je trouve qu'en effet, c'est bien que maintenant on puisse utiliser la 4G, c'est-à-dire l'Internet dans le métro, mais ce serait bien qu'on modernise définitivement les réseaux de transport parisiens, oui, si on veut réellement supprimer la voiture.
Et c'est le cas dans d'autres grandes villes,
oui,
non,
oui.
C'est
un réseau, Montpellier, c'est 164 heures d'embouteillage par an.
Ouais.
Vous imaginez, Montpellier. Toutes les villes, en plus une petite ville qui a beaucoup grossi, vous passez 164 heures dans votre voiture par an.
Ouais. Qui est un vrai sujet. Ouais.
Donc,
coup de cœur pour la modernisation des réseaux de transport public.
Mais oui, mais pourquoi vous n'avez pas pris le métro ?
Pourquoi pas le vélo électrique ?
Je me suis dit, peut-être que ça roule mieux après le confinement. Et en fait,
eh bien non. Non.
Je sais qu'il faut définitivement prendre le métro.
Justement, Romain Colas, c'est un coup de cœur écolo, c'est ça ?
C'est un coup de cœur social écologiste, ouais. Cher Valérie, puisque moi je voulais adresser un gros coup de cœur à toutes ces femmes et ces hommes issus des rangs de la gauche, issus des rangs des écologistes, qui ont emporté, soutenus par les citoyennes et les citoyens, une magnifique victoire lors du second tour des municipales, qui a d'ailleurs confirmé les résultats obtenus au premier. Il est incontestable que le grand gagnant de ce second tour des municipales, c'est ce bloc social écologiste naissant.
La droite a remporté quand même un certain nombre de villes. Hein.
Oui, mais la droite progresse bien moins fort que la gauche et les écologistes. Et lorsque nous avons pris des villes, c'est précisément à la droite d'ailleurs s'était associé à LREM, qui les a véritablement plombés dans un certain nombre de collectivités. Ces chiffres-là sont incontestables. La progression dans le cadre de cette élection municipale, elle est du côté de la gauche et des écologistes. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Ouais. Je veux me satisfaire évidemment du fait qu'il y ait des nouvelles orientations qui vont être portées dans un certain nombre de communes. Je me permets simplement de dresser deux constats. Le premier, c'est que jamais un parti au pouvoir n'avait subi une telle baffe, jamais. Même les socialistes dans leurs pires années, et le cru 2014 des municipales était un cru qui était mauvais, n'avait pas subi une telle débâcle. J'ajoute d'ailleurs que Stanislas Guérini, qui préside aux destinées de LREM, s'enorgueillit qu'il y ait désormais, d'après ses comptages, qui mériterait d'ailleurs à être vérifié, 10 000 conseillers municipaux encartés LREM dans le pays. Vous savez ce que ça veut dire, 10 000 conseillers municipaux à l'échelle des 35 000 communes de France ? Ça veut dire 2% des conseillers municipaux. Ouais. 2% des conseillers municipaux.
Ça dépend comment on
voit le résultat des municipales pour le parti au pouvoir. L'autre enseignement, et je me tais après, que j'en tire, c'est que même s'il s'agit de scrutins locaux, on sent bien qu'il existe dans ce pays, et il sera de la responsabilité des formations politiques de la gauche et des écologistes d'en être digne, une aspiration profonde à ce qu'une nouvelle offre politique en capacité de diriger les collectivités de demain le pays émerge. Et vraiment, la conclusion que je tire de ces municipales, c'est que le match tant annoncé, le match tant souhaité d'ailleurs par Emmanuel Macron lui-même, entre lui et les nationalistes, Marine Le Pen en l'occurrence, n'est pas inéluctable. Oui. Nous appartient désormais.
Je sais pas. On peut commenter. On en a parlé un petit peu hier, mais l'analyse que vous faites, elle est assez contestable sur plusieurs points. Attendez. Déjà, un scrutin municipal n'est pas représentatif d'un scrutin national. Et puis, franchement, je crois que c'est à Bordeaux où il a été élu avec à peine 18% des voix. J'ai plus le chiffre exactement en tête. Donc, on peut pas parler d'une tendance, d'une poussée. Il y a eu une abstention record.
Excusez-moi, mais oui. Valérie, vous avez dans les grandes métropoles, quand vous avez dans les villes de plus de 30 000, dans les villes de plus de 100 000, la gauche et les écologistes qui sont en conquête, même si je suis d'accord avec vous, on est dans un contexte de participation particulier, on ne peut pas le nier. Et d'ailleurs, j'étais le premier à dire que la défaite des socialistes lourde en 2014 n'était pas à déconnecter du contexte national. Ouais. Voilà. Alors... Et c'est se cacher derrière son petit doigt, de nier le fait qu'il y a une aspiration. Moi, je le sens en discutant. Je l'ai vu notamment à Marseille. Je suis allé me déplacer à Marseille la semaine dernière. Il y a une aspiration profonde d'une partie de ce qu'on appelle le peuple de gauche, qu'on avait un peu perdu de vue ces temps derniers, à ce qu'une offre émerge qui sera nécessairement sociale et écologique. Alors, et en tout cas, alors, une volonté chez une part grandissante de nos concitoyens qu'on ne revive pas le match Macron-Le Pen en 2022.
Ouais. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, je trouve assez surprenant qu'un homme politique, c'est notamment, se satisfasse d'une élection où il y a eu une majorité d'abstention. Je pense que c'est personne à gagner, c'est la démocratie qui a perdu. Et puis quand on s'intéresse un petit peu aux scores électoraux, évidemment, il y a une poussée d'Europe Écologie des Verts, mais où dans les grandes métropoles, quand vous allez dans les provinces, quand vous allez dans les petites villes, il n'y a absolument pas de poussée d'Europe Écologie des Verts. La vérité, c'est que c'était un vote de bobo. Ces gens-là ont voté avant pour Macron, maintenant ils votent pour Europe Écologie Les Verts parce que Macron a complètement, est complètement discrédité, et puis le peuple, les racines profondes de ce pays n'est pas du tout écolo, n'a pas du tout voté pour les écologistes, ces racines-là se sont abstenues, donc arrêtons un petit peu de tomber dans l'écologisme parce que je pense qu'on se trompe complètement d'analyse.
Alors,
oui, peut-être un petit mot quand même pour... Je pense qu'on a enfoncé beaucoup de portes ouvertes depuis trois jours sur le sujet. Moi, je voudrais juste revenir sur l'expression sociale écologiste. Je pense que empêcher les gens de banlieue de venir travailler ou les condamner à allonger leur temps de trajet tous les jours, ce n'est pas social. C'est probablement écologique, mais ça n'est pas social.
Je veux bien rebondir là-dessus parce que je suis élu de banlieue et j'ai été très choqué par vos propos sur le sous-équipement public supposé de Paris.
Oui.
Moi, je suis maire d'une commune qui est à 30 km de Paris. Je vais vous dire, j'aimerais bien avoir la densité des réseaux de transport que celle dont vous bénéficiez à Paris. Donc, pardonnez-moi, mais en termes d'enfonçage de portes ouvertes, je ne crois pas être celui qui a battu le record ce matin. Parce que moi, effectivement,
attendez,
je suis maire d'une commune où les gens galèrent.
Je crois que
les gens galèrent pour venir bosser au quotidien.
Mais
galèrent pour venir bosser au quotidien.
Le sous-équipement parisien pénalise les gens de banlieue. Hein. Les gens qui viennent donner sous bois pour travailler à Paris sont pénalisés par le sous-équipement du RERB.
Oui. Le RERB, le D, le A, le C.
Le sous-équipement du transport parisien ne pénalise pas les Parisiens, il pénalise les banlieusards.
Oui, d'accord.
Cher Romain, moi je suis un peu étonné de ta réflexion. Je n'ai pas de souci, on a pris une très grosse fessée. Moi je ne suis pas satisfait qu'on ait 8 000 ou 10 000 conseils municipaux. Souvent ils sont dans l'opposition. Donc oui, la marque En Marche a besoin de se revisiter. En Marche, c'est le nom et le prénom du président de la République. Il faut un vrai parti, qu'il soit des fois pas d'accord d'ailleurs avec le gouvernement. C'est comme ça qu'on avance. Donc je suis clair avec ça. Moi ce qui me gêne, c'est que les citoyens ne vont plus voter. Ils ne vont plus voter pourquoi Parce qu'on passe notre temps à nous expliquer que c'est la faute de l'autre, qu'Emmanuel Macron fera le débat avec Marine Le Pen. On n'en est pas là, Romain. Aujourd'hui, après la crise sanitaire, 30 000 morts, on va avoir une crise sociale et économique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On explique qu'on était les meilleurs que les autres. Je ne crois pas au Nouveau Monde. Moi, c'est clair. Hein, tu sais très bien que j'étais avec toi au Parti Socialiste. Et je suis parti parce qu'il y avait 80 frondeurs qui nous empêchaient de mener une politique sociale aujourd'hui. Je pense que le Covid a permis aux gens de se dire qu'il valait mieux respirer, mieux se déplacer autrement, c'est un fait. Et puis, il y a le dégagisme. Emmanuel Macron, en 2017, a profité du dégagisme. Les partis étaient bas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on voit des blocs qui se ressoudent. Être un homme de droite ou une femme de droite, c'est pas pareil qu'une femme de gauche ou un homme de gauche. Et donc, je crois que plutôt que d'expliquer que Macron est nul et qu'on n'a pas fait des bonnes réformes, c'est comment on fait pour faire retourner les gens aux urnes. À Montpellier, 34% de participation. Tu sais que moi, je fais partie de ces parlementaires qui veulent qu'on décentralise le pouvoir. Le maire est celui qui est le plus aimé de sa population et les gens ne sont pas allés voter. Donc le vrai débat, c'est comment on fait, toi et moi, pour que les gens aient envie de revenir aux urnes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Et ce qui me gêne dans le politique, c'est qu'il est toujours, il n'est pas capable de dire je ne sais pas et j'ai pas bien fait. C'est ça le vrai problème.
Bien, c'est En Marche.
Allez, on se retrouve ce qu'on n'a pas fait de bien, mais peut-être qu'on va en parler avec Agnès Buzyn. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous pour le 10h midi, nous commentons l'actualité avec vous, 0826 300 300. Avez-vous été convaincu par Agnès Buzyn? Vous avez dû peut-être écouter son audition hier ou peut-être voir quelques extraits. Elle est venue s'expliquer sur la gestion de la crise du coronavirus. Écoutez un extrait de cette audition hier.
Je ne sais pas quels ont été les contrôles réalisés auparavant. Je n'en ai pas l'historique et je n'ai pas accès aux archives des précédents ma mandature. Ce que je sais, c'est que une demande a été faite en 2017 de vérifier les stocks, que la réponse nous est parvenue 18 mois plus tard et que, aux surprises, voilà, les stocks étaient pour beaucoup pas en état de fonctionner.
Aux surprises. Un ministre qui dit aux surprises et pas en état de fonctionner, qui est un magnifique euphémisme pour dire qu'ils étaient pourris, quoi, qu'ils avaient été bouffés par les rats et qu'ils étaient périmés.
Ce qu'on ne parvient pas à savoir vraiment, puisqu'il y a eu plusieurs versions, et Jérôme Salomon, dans son audition devant la même commission, a en effet beaucoup nuancé l'état des stocks, puisque personne n'est parvenu à expertiser réellement l'état réel des stocks. Et il paraît-il, on a quand même récupéré des masques qui étaient jugés inutilisables parce qu'on considérait qu'ils étaient encore en bon état. Donc en réalité, on ne sait pas. Ce que je trouve terrible, excusez-moi, j'ai pris la parole.
Oui, allez-y.
Ce que je trouve terrible dans cette affaire, c'est
qu'on ne savait pas.
On ne sait pas. Et comme la présidente de la commission parlementaire est, de mon point de vue, beaucoup trop molle et beaucoup trop soucieuse de respecter le gouvernement, elle ne bouscule pas assez ses interlocuteurs. Alors Éric Ciotti le fait plutôt pas mal avec tact et mesure, mais il le fait plutôt pas mal. Mais je trouve que cette commission ne permet pas réellement de pousser une Agnès Buzyn dans ses retranchements, même si on l'a vu quand même en perdition hier.
On l'a vu, oui, en très grande difficulté. C'était
un moment un peu compliqué, parce que je peux imaginer quelqu'un qui s'est pris une tôle monumentale quand même aux élections municipales, puisqu'elle n'est même pas élue.
Ouais, ouais.
Et qui se trouve deux jours plus tard devant une commission parlementaire où on lui demande de justifier ses actes d'avant. Je peux imaginer que pour un humain, une femme ou un homme, ce soit un moment très difficile à passer. Donc moi, je suis plutôt d'avis d'exprimer une forme d'indulgence vis-à-vis des vides, des pertes de mémoire qu'elle a eues. Il n'en reste pas moins qu'on en est sorti avec le sentiment... Si, c'est une épreuve quand même, se trouver devant une commission parlementaire, c'est une épreuve, avec des caméras partout, je vois.
Enfin, elle est censée être préparée, elle n'est pas, c'est pas la...
Enfin, oui.
C'est pas, elle n'est pas ni comédienne, ni...
On peut en effet penser, en bout de course, si on met à côté de l'audition de Buzyn, l'audition de Jérôme Salomon, qui de mon point de vue a été cataclysmique, parce qu'on a vu des gens incapables de se remettre en cause sur leurs propres erreurs évidentes, on a quand même le sentiment que l'administration n'est pas tenue et que la haute administration pose problème dans ce pays, y compris les élus.
Alors, hier, c'était un peu quand même du circulé, il n'y a rien à voir. On a été très bons, on a tout géré, il n'y a pas eu de problème, on a tout vu. C'était un peu...
On a anticipé.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de membres de la commission qui disent, en gros, ils l'ont dit clairement, on passe pour des cons, comme pour l'affaire Benalla, et c'est encore le Sénat qui va faire le boulot.
Alors, Patrick, d'abord, pour Agnès Buzyn, personne ne nous oblige à nous présenter aux élections.
Oui.
Après, c'est vrai que c'est une aventure humaine compliquée. Moi, je ne vous cache pas, j'ai pris une belle fessée à Montpellier avec 6%, sauf que c'est la démocratie, on doit l'accepter. Voilà, donc, je pense qu'il faut savoir tourner la page. Après, ce qui concerne Agnès Buzyn, il y a une commission d'enquête parlementaire qui va durer 6 mois. Donc, moi, je vais attendre le résultat, mais j'ai peut-être une autre analyse. Rappelez-vous Roselyne Bachelot, qui avait commandé 2 milliards de masques, qui avait commandé 14 millions de tests. Et rappelez-vous, elle a dû les jeter. Et rappelez-vous la polémique qu'on avait dit, c'est une ministre qui gaspille l'argent public. Et il me semble que l'administration, depuis cet acte-là, a été frileuse. Voilà. Moi, je pense que c'est le vrai débat. Après, est-ce que la ministre doit être la chef d'administration? Oui, elle doit l'être.
Ouais.
Maintenant, si en 2018, quand je venais sur vos plateaux, qu'on prenait la crise des Gilets jaunes, et qu'on avait annoncé qu'on allait acheter beaucoup d'argent pour des tests et pour des masques, je ne suis pas certain que les Français auraient été d'accord. Donc, effectivement, je pense qu'on a ouvert les armoires et qu'il n'y avait pas de masques, ou ceux qui étaient pourris.
Sauf
on a eu du mal à le dire.
Comme ça.
Par contre, moi, je pense que c'est passé comme ça. Par contre, il faut être honnête, on a confiné la France. Aujourd'hui, dis sincèrement, sur le volet économique, il n'y a jamais un pays qui a fait autant. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, notamment sur la mise en place du chômage partiel.
Oui. Qui est une folie.
Mais qui est une folie budgétaire.
Mais vous avez vu les premiers contrôles qui ont été faits par Mme Pénicaud où il y a...
Ça, c'est normal, ça.
Mais qui les contrôles. Non, les contrôles sont normaux, mais qu'il y ait 3000 déjà entreprises
Oui, mais Valérie,
qui sont en contravention
qu'on a déjà.
Oui,
et donc je pense qu'il fallait aider l'entreprise. Enfin, je crois que vous serez tous d'accord avec
moi.
Mais
non.
Il fallait pas aider le chômage partiel.
Attends,
il fallait
Patrick,
qu'on plie les entreprises.
On va mettre les choses sur la table.
Ça m'intéresse.
Patrick, moi, mon expert comptable, m'a écrit en me disant mettez vos salariés au chômage partiel, vous y avez droit. J'ai refusé parce que chez moi, on fait pas ça.
Ah, mais parce que toi, tu as des clients, ça fonctionne.
Oui,
non, mais voilà.
Ce que je n'admets pas. Oui, mais sauf qu'il y a des boîtes qui auraient très bien pu s'en passer et qui l'ont fait.
Lesquels, par
exemple ? Je suis convaincu que j'ai des concurrents qui, aujourd'hui, bénéficient d'aide de l'État, qui me font une distorsion de concurrence. Il est hors de question que ces mecs-là survivent grâce à l'argent de mes impôts.
Muriel Pénicaud a embauché 2000 personnes pour faire les contrôles.
Les boîtes qui ne sont pas viables doivent fermer.
Bah, et alors ? Et
non, attendez.
Non, mais elle fait les contrôles et on se rend compte qu'il y a un nombre massif de fraudes.
Valérie, je pense quand même que le pays est au chaos en matière économique et que heureusement qu'on a aidé les entreprises à remonter.
Mais c'est pas la question.
Vous auriez fait quoi depuis ?
On a zombifié.
Non, mais regardez la.
C'est fou les Français. Si on n'aide pas l'entreprise, elle le plante et si on l'aide, on est
zombifié. Nous sommes dans des difficultés économiques et en prenant des mesures qui sont complètement disproportionnées, vous ne faisiez qu'accroître finalement les problèmes économiques puisque ça accroît la dette. Donc, évidemment qu'il fallait aider les entreprises, mais quelles entreprises fallait-il aider ? Elle est là la question. Il y a plein d'entreprises qui ont bénéficié du chômage partiel alors qu'elles n'en avaient plein besoin.
Vous êtes au courant,
pas besoin.
Des bars, des restaurants,
et les fraudes, et le nombre de fraudes qu'il y a eu.
Et que vous faites que la moitié est couvert, c'est pas rentable.
Mais il faut les fermer.
Moi, j'ai des amis qui ont été mis au chômage partiel et on leur a demandé de travailler quand même. Évidemment, ils ont refusé. Voilà ce que c'est que la logique de certains entrepreneurs.
Vous êtes en train de dire que tous les patrons sont
payés. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit certains.
Stop. Non, c'est moi pas, je dis que c'est les vertueux pas, mais c'est ne pas doivent pas payer pour les souris.
D'accord.
C'est pas notre sujet. Vous êtes en train de dévier le sujet habilement, Patrick Guillaume.
Je n'oserais pas, Valérie.
En habile politique, on était en train de parler de la responsabilité de Mme Buzyn. Et puis, je vois nos auditeurs qui s'étonnent en disant mais comment la ministre de la Santé n'est pas au courant. C'est quand même invraisemblable. Alors peut-être que... Pardon. Romain Colas, qu'est-ce que vous en pensez ?
D'Agnès Buzyn, pas grand-chose pour tout vous dire, parce que je trouve que l'exercice auquel elle s'est livrée hier était très prévisible. Je partage ce qui a été dit par Eric. Je souhaite à personne, en vrai, de se retrouver dans la situation humaine d'Agnès Buzyn des jours horribles. J'en viens sur le fond. Elle n'a pas apporté de réponse. Elle a beaucoup botté en touche. Beaucoup chargé Santé publique France. La vérité, c'est que dire que nous étions prêts à affronter la pandémie relève de la mystification pure et complète. La vérité, c'est qu'on a adapté la doctrine sur les masques, la doctrine sanitaire sur les masques en fonction de nos stocks et absolument pas l'inverse. La vérité est de reconnaître aussi, parce que je partage le souci d'honnêteté exprimé par Patrick Vignal, que les stocks ont commencé à baisser dans le quinquennat précédent. Donc, il faudra faire aussi toute la lumière sur la responsabilité des uns et des autres, et y compris ceux qui appartiennent à ma famille politique. Mais en aucun cas, on ne peut dire qu'on a anticipé. Un sujet qu'on n'a pas abordé, mais on avait des stocks de médicaments aussi, notamment de médicaments réa qui étaient insuffisants. Et on a découvert finalement notre immense vulnérabilité dès lors que nous étions confrontés à une pandémie mondiale et notamment qui mettait à l'arrêt nos fournisseurs en médicaments et en masques, en l'occurrence principalement la Chine. Donc non, nous n'étions pas prêts. Non, Agnès Buzyn n'a pas apporté de réponse. Et oui, elle a toute une partie de son audition a consisté quand même
à se
défausser. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de masque, on n'avait pas de médoc, mais tout a été bien géré. On sent bien qu'il y a un problème. Et moi, j'attends du Parlement, le Sénat et l'Assemblée, qu'il sache tirer les leçons, pas dans le temps de l'immédiateté, parce que pour analyser la façon dont une crise comme celle-ci a été ou pas anticipée, dont elle a été gérée, faut prendre un peu de temps d'en tirer, d'en tirer les leçons, mais non, pas convaincu le moins du monde.
Alors, on a un mot, Kevin, on aura Olivier de Bordeaux en ligne avec nous.
À travers l'exemple de Mme Buzyn, je pense qu'on comprend mieux ce qui s'est passé dimanche. Il y a un discrédit total, notamment de la parole politique. Il suffisait d'entendre Mme Buzyn, il y avait un auto-satisfaction permanent. On a tout fait le mieux possible, tout ce qu'on a fait, c'était génial, sauf qu'on a quand même 4 fois plus de morts qu'en Allemagne, et quand on lui pose la question, mais elle ne répond absolument pas. On a compris également, le gros problème de la démocratie française, c'est que les hommes politiques ne sont plus en fait des hommes politiques, ce sont des super communicants qui n'ont plus aucune prise sur leur administration, qui ne communiquent même plus entre elles. Donc c'est une dépolitisation totale de notre démocratie, et c'est ça aussi qui explique le drame au niveau abstentionnisme de dimanche. Et puis de manière générale, enfin, elle a dissipé toutes nos interrogations. Enfin voilà, moi je parle par exemple au niveau des conflits d'intérêts. On lui a posé la question, Julien Aubert, que vous avez reçu ce matin, lui a posé la question, et finalement elle a refusé de répondre. Qui a nommé le comité scientifique? Pourquoi Raoult est parti et est-ce que les animosités personnelles ont été plus importantes que l'intérêt général? Moi c'est ça le point central, et on n'a pas eu de réponse parce qu'elle a botté en touche. Il y a un discrédit total du politique, et si on continue comme ça, c'est plus 50-60% d'abstention, ça va être 80%.
Alors, on a en ligne Olivier qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Valérie, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Écoutez, il y a plusieurs débats là, en fait. Oui. Il y a le débat de l'impunité des politiques aujourd'hui dans notre société. Le fait qu'ils veulent pas se remettre en question et qu'on se cache derrière la soudaineté du Covid, etc., etc. Sauf que, justement, faire de la politique, c'est anticiper. Moi, je me fie à la déclaration d'Agnès Buzyn quand elle a dit qu'elle avait alerté et qu'elle n'avait pas été écoutée. Bon, après, finalement, elle s'est représentée à la mairie de Paris. Elle a pris la raclée des électeurs, parce que les gens ne sont pas dupes. Hein. C'est pas parce que les médias disent plein de trucs, et c'est pas parce que les gens ne sont pas dupes. Ils comprennent très bien qu'SDF qui vole des pâtes, il va en prison, et que Agnès Buzyn, on dirait que c'est un problème de rendre des comptes. Mais attendez, ils sont élus, ils sont là pour rendre des comptes, ils ont des responsabilités, et les comptes qu'ils ont à rendre sont aussi en proportion de leurs responsabilités. Voilà. Et si elle n'est pas élue, le message il est clair justement. Moi, je suis pas là pour la plaindre personnellement ou je sais pas quoi. Ça, c'est pareil. Hein. Vous savez, les gilets jaunes, quand ils se sont fait arrêter, c'était les procédures d'urgence. Ils étaient déférés tout de suite. Ils étaient condamnés tout de suite. Voilà. On n'a pas. Je vais vous donner un autre exemple qui, je trouve, c'est un peu la même. C'est un peu la même chose. Il y a le nouveau miracle après Lourdes. On va à Levallois-Perret. L'autre, il est sorti pour raison de santé. On l'a vu danser pendant la fête de la musique. C'est ça que les gens voient. Les gens, ils voient comment les politiques sont traités. On sait très bien que M. Fillon, il ne fera pas les deux enfermes. Et lui, en plus, il s'est fait griller parce qu'on a voulu l'empêcher d'être président. Écoutez, c'est peut-être un mal pour un bien pour un mal. On le voit dans le sens qu'on veut. En attendant, ces gens-là ont une vraie impunité. Et de pouvoir se permettre de venir à la commission d'enquête et cracher sur la commission d'enquête et les institutions comme ils le font en bottant en touche, c'est scandaleux. Non, moi, j'ai préféré l'audition de Raoult.
Vous n'êtes pas d'accord.
Non, je suis pas d'accord parce qu'en réalité, les débats à la commission parlementaire sont biaisés. Et moi, je comprends assez le flou entretenu par une Agnès Buzyn. Je le défends pas, mais je le comprends parce que je serai à sa place, je ferai la même chose. Pour une raison simple, c'est que en même temps qu'il y a une commission parlementaire, il y a des poursuites judiciaires qui sont ouvertes. Il y a une enquête judiciaire. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'une Buzyn, un Salomon, s'ils disent « mais oui, j'ai commis des fautes », ils creusent leur propre tombe, parce qu'ils ne pourront plus dire en justice le contraire. Et lorsqu'on les menacera de prison, comme c'est le cas de Fillon, de Balkany, s'ils ont dit devant la commission d'enquête « mais bien entendu, j'ai commis des fautes », vous comprenez bien qu'ils ruineraient leur défense. Et donc, on a une difficulté aujourd'hui, qui est de faire coexister une commission parlementaire et une enquête judiciaire. Aussi. Et forcément, les élus ont tendance à privilégier la défense de leurs intérêts pénaux. On ne peut pas le reprocher. Et donc, ils font passer après l'intérêt de la démocratie.
Enfin, c'est tragique. Et là, on a un sujet.
C'est tragique sur
le plan de la communication
et de
l'image que ça renvoie, Kevin.
Oui, c'est complètement tragique. Alors, j'aimerais quand même dire que nos hommes politiques ne sont pas tous des salauds, qu'ils font un travail qui est formidable, notamment les élus de terrain, donc il ne faut pas être caricatural. Moi, je pense qu'il faut surtout pointer du doigt cette République en marche qui est finalement composée d'incompétents. Je ne dis pas que vous êtes tous des incompétents, mais quand même, depuis plusieurs années que vous êtes maintenant au pouvoir, on se retrouve quand même avec des gens qui racontent globalement n'importe quoi. Je pense quand même à Sibeth Ndiaye, dont Pierre Perret dit qu'elle porte bien son prénom. Il a peut-être un peu raison. Oh, ou alors, il y a des lois qui sont complètement... Mais c'est fou. Regardez la loi sur des retraites. Mais c'est quoi ce machin?
Vous êtes trop intelligent et trop cultivé pour tomber dans la bassesse. Très
mais je ne tombe pas dans la bassesse.
Je vais vous dire, ça fait 3 ans que l'Applique en Marche est au pouvoir. Ça fait 30 ans de l'acheter. Et oui. J'ai aimé ce qu'a dit Romain Collin. Quand on est politique, il faut avoir une lumière ouverte et sur le passé et sur l'avenir. Tout n'a pas été bien fait.
C'est évident, c'est un échec.
Des enseignants. Mais ce n'est pas qu'un échec, cher monsieur. Ce que je pense, moi, c'est que souvent, malheureusement, c'est l'administration centrale qui décide et pas le politique. Là, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que quand on fait de la politique, il faut qu'on ait des convictions, il faut qu'on soit capable d'arracher les dossiers à l'administration. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, après, si vous voulez, si on reste dans le tous pourri, ça ne pourra pas fonctionner. Mmh. Et c'est le populisme et c'est la rue qui va commander. Oui, Donc le vrai débat qu'on doit avoir aujourd'hui, moi je fais le point de 3 ans de mandat d'Emmanuel Macron, on ne va pas tout jeter à la poubelle. Je pourrais vous parler de la réforme des retraites, c'est une erreur. La seule réforme qu'il fallait faire, c'était les régimes spéciaux uniquement.
On est d'accord.
Et puis après, réfléchir dans l'avenir, comment une politique plus sociale. Bon, c'est là le vrai débat.
Allez, il faut qu'on marque une petite pause et on revient avec vous. On aura Karine en ligne qui voulait réagir à notre débat. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, ben finalement on n'aura pas traité tous les sujets qu'on voulait traiter, mais c'est vrai qu'Agnès Buzyn hier, auditionnée pendant plus de 4 heures sur la gestion de la crise du coronavirus face aux députés, ne semble pas vous avoir convaincu. On a en ligne avec nous Karine. Bonjour Karine.
Oui, bonjour à tous. Merci de prendre mon appel. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, ça va être frustrant parce que je vais pas arriver à tout dire. Mais premièrement, donc moi j'ai regardé quand même une grande partie de son audition. Et premièrement sur la forme. Bon, j'avoue que c'était assez pathétique parce qu'elle était dans un bafouillement constant. Elle se référait à ses notes. Elle était pratiquement incapable de maintenir un argumentaire, si vous voulez, continu sans regarder ses notes. Il y avait quelqu'un à côté d'elle qui lui passait des papiers. Et après, elle se référait à une espèce de manuel d'instruction qui était une sorte de bible des process et des définitions. Et j'avoue que c'est quand même extrêmement triste et pathétique de voir quelqu'un qui est ministre incapable de se défendre de façon, si vous voulez, continue et juste de son cerveau, au lieu de s'en référer, encore une fois, à des papiers. Mais je suis d'accord, et ça a été dit, qu'on sentait bien qu'elle avait un stress absolument énorme et qu'elle était très angoissée et qu'effectivement, il y a des possibilités de poursuites judiciaires. Donc, elle fait très attention à ce qu'elle dit. D'autant plus qu'on se rappelle que c'est elle qui avait lancé quand même une bombe lorsqu'elle avait dit qu'elle avait prévenu le gouvernement, donc Premier ministre et Président, et que finalement il ne l'avait pas du tout suivi sur son intuition. D'accord ? Après, il y a le problème, effectivement, de la complaisance de ces commissions d'enquête. Et là, c'est vraiment très frustrant aussi, parce qu'on se pose, encore une fois, la question de leur utilité et de leur vraie fonction. Ça a été vrai pour Benalla, on va pas recommencer, on va pas reciter toutes les histoires avant. Et on sentait... Alors, par exemple, ils lui ont pas du tout posé de questions. Sur l'histoire du matériel qui avait été envoyé par la France, des tonnes de matériel envoyé à la Chine. Personne n'a posé de questions. Il ne pose pas la question des nominations, effectivement, aux différents comités. Il ne pose pas la question de la vraie chaîne de commande, parce que justement, puisqu'elle avait donné l'alerte, pourquoi est-ce que personne ne l'a suivi? Et on sent très bien qu'elle, mais comme beaucoup de gens dans ces milieux-là, essayent de protéger leur carrière et craignent des poursuites. Et alors, moi, je voudrais quand même, et juste pour cette histoire de complaisance de commission, on peut comprendre après pourquoi les gens sont dégoûtés de la politique et se disent mais ça ne sert à rien. Je ferai juste un parallèle si je peux me permettre une digression. Macron a nommé, et ça a fait une ligne, et personne n'en, et je suis étonnée qu'on n'en ait pas beaucoup parlé dans les médias, a nommé Moscovici à la tête de la Cour des comptes.
On en a beaucoup parlé.
Toujours un verrouillage de la technocratie. Et j'aimerais juste terminer sur le fond parce que c'est important. On a appris quand même des choses très intéressantes sur cette audition. Enfin, ça a conforté déjà des choses qu'on sait sur ces milliers de layers de feuilles, si vous voulez, de hiérarchies, de commissions, de comités qui existent et qui ne servent à rien. On a appris, par exemple, qu'il existe le European Center for Disease Control, qui est un peu l'équivalent du CDC d'Atlanta, et qui existe au niveau européen. Je vous rappelle qu'on n'a pas arrêté de nous dire qu'il fallait plus d'Europe parce que, justement, la santé ne faisait pas partie d'une des missions de l'Europe. Or, le CDC existe, elle en a parlé, justement, dans son audition. C'est un truc qui est basé en Suède, qui a 290 personnes d'effectifs, donc qui doit coûter encore une blinde au niveau de des salaires, etc. Et c'est la première fois que j'en entends parler, et ils n'ont rien fait, on ne les a jamais entendus, ils n'ont rien fait pendant toute cette crise.
Il y a un millefeuille effectivement, d'organismes et d'organisations, mais c'est vrai que, oui, elle a...
Moi, je trouve, comme pour rebondir sur ce que dit l'auditrice, qui était assez largement vrai, mais il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Et moi, je trouve qu'il faut rendre hommage au Parlement, à l'Assemblée nationale, parce que après des années de fonction croupion, le recours régulier aux commissions parlementaires d'enquête, je trouve que c'est très bénéfique pour la démocratie.
Ciotti est très bon dans cette
commission. Je trouve que la commission de Bernalicis sur l'indépendance de la justice est aussi très intéressante. Et je pense que le Parlement est en train de se positionner de façon intelligente dans la vie démocratique. Et je trouve qu'il faut lui rendre hommage sur ce point.
Alors effectivement, c'est quand même cette problématique. Romain Colas.
Juste sur ce que disait Eric, je partage totalement. Il y a une évolution ces dernières années. Ça a commencé d'ailleurs avec les frondeurs dans la précédente mandature. Il y a depuis plusieurs années un mouvement qui s'opère où le Parlement ne veut pas simplement voter des textes à la chaîne qu'il n'a même pas le temps d'examiner dans des conditions satisfaisantes parce que les gouvernements font appel de façon systématique dans le cadre de leur diarrhée législative à la procédure d'urgence. Donc le Parlement travaille dans des conditions qui sont extrêmement dégradées sur l'examen des textes de loi, mais il a trop souvent négligé sa fonction, qui est sa deuxième fonction essentielle en démocratie, de contrôle. Et elle est en train progressivement de se renforcer, de rentrer dans la culture. Sauf qu'entre ce qui s'est pratiqué avant et ce qui se pratique aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas au Sénat, on a quand même un recul à constater. Et moi, j'appelle les parlementaires de la majorité de La République En Marche à considérer qu'ils sont parlementaires, membres de l'Assemblée nationale, qu'ils doivent agir pour contrôler l'action du gouvernement avant de considérer qu'ils sont membres de La République En Marche. Parce qu'à la fin, quelle que soit la qualité des auditions et du travail d'enquête, il y a un rapport qui devra être adopté. Ce rapport, il sera adopté à la majorité et les commissions, elles sont constituées à la proportionnelle. Donc si La République En Marche veut caviarder le rapport, elle aura la capacité de le faire. On a vu d'ailleurs ce qu'a été la parodie de commission d'enquête sur Benalla à l'Assemblée nationale parce que La République En Marche a voulu verrouiller cette commission d'enquête alors qu'elle a pu se dérouler dans des conditions satisfaisantes au Sénat. Là, il y a un intérêt qui est l'intérêt de la France à ce qu'on tire les enseignements véritables avec un Parlement qui est dans son rôle de la façon dont cette crise a été gérée pour qu'on puisse mieux gérer la suite. Et moi, je me fiche de savoir où le couperet tombera. Si on dira si c'est Agnès Buzyn qui est plus coupable que ses prédécesseurs qui pouvaient appartenir à ma famille politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on tire vraiment les enseignements.
Qu'il en sorte quelque chose.
Donc, il ne faudra pas que pour des raisons politiciennes, la majorité, parce qu'elle a la capacité de le faire, caviarde le rapport. Je le dis aux parlementaires, moi j'ai été député, j'ai toujours considéré que j'étais député de la nation avant d'être socialiste dans l'exercice de mes fonctions. Qu'ils en fassent autant.
Ouais, mais c'est vrai qu'on a nos auditeurs qui nous disent à quoi ça sert, à quoi ça sert parce qu'il se passe jamais rien.
Oui, moi j'ai envie de répondre à Karine. Je suis député de La République. Je suis pas député de La République En Marche et je partage l'avis de Romain. Je pense que c'est important parce qu'en fait, comme les Français ne font plus confiance, on a vraiment l'impression chaque fois de garder des secrets. Depuis 2012, il y a moins d'opacité au niveau du Parlement. Moi, je peux être un député godillot, vous le savez. Pendant la crise des Gilets jaunes, j'étais en décalage. J'aime mon mouvement et je l'assume. Et enfin, si on veut rendre service au président de la République, c'est pas en étant des godillots, c'est en ayant des convictions, c'est en faisant bouger la feuille de Roudon. Ce qui est compliqué pour nous, c'est que si vous faites une commission parlementaire, les gens vous disent elle est caviardée. Si vous la faites pas, vous cachez quelque chose. Donc je pense que ce qui est bien, c'est que ces auditions sont publiques. Ça, c'est déjà le premier modèle transparent. Et puis, enfin, quand même, allons jusqu'au bout des choses. Donc il nous reste quelques mois. Moi, je trouve veut qu'Éric Ciotti, justement, a géré intelligemment. Il ne nous fera pas de cadeaux et il a raison. Et s'il y a des responsabilités à sortir, eh bien, il faudra prendre nos responsabilités. On n'est pas des députés godillots.
Enfin, vous, peut-être pas, mais beaucoup, en tout cas, doutent que cette commission d'enquête, en tout cas de l'Assemblée, débouche sur quelque chose. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Dans un instant, vous retrouverez André Bercoff. Et demain, on se retrouve à 10h pour d'autres infos. Très bonne journée sur Sud Radio.